Radio République Indonesia, Service International, La Voix d'Indonésie.
Informing, connecting, dignifying.
Radio République Indonesia, Service International, La Voix d'Indonésie, présente des nouvelles, des informations actuelles et des divertissements. Vous pouvez écouter notre émission tous les jours sur les fréquences ondes courtes de 15 150, 9 525 et 11 785 kHz. Le programme de l'émission en français ou écouter l'audio sur demande sur www.voi.co.id.
Bonsoir tout le monde. Il est agréable de vous rencontrer de nouveau dans l'émission quotidienne en français de La Voix d'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Nous souhaitons que vous restiez toujours en bonne santé et ayez toujours le temps d'écouter nos programmes. Pour ce soir, l'émission sera commencée par le journal, suivi de commentaires, l'histoire d'aujourd'hui et la mise au point.
La Voix de l'Indonésie, les informations.
Bonsoir à tous, bienvenue dans le programme Le Journal. Nous commençons avec le titre. La visite de la ministre indonésienne des Affaires étrangères au Moyen-Orient. La réunion bilatérale entre le ministre indonésien des Affaires étrangères et son homologue singapourien. La conscience des gens est très importante au cours de la CEA. La force aérienne est prête à affronter le conflit en mer de Chine méridionale. La Russie a l'intention de fabriquer des composants de Sukhoi avec PTDI. Et enfin, le ministre tchèque des Affaires étrangères emmène des hommes d'affaires à l'Indonésie. Voici le journal complet. Le président Joko Widodo a ordonné à la ministre des Affaires étrangères Retno Marsudi de visiter le Moyen-Orient le mardi 12 janvier 2016 et a porté une lettre à donner au roi d'Arabie Saoudite et président de l'Iran. La ministre Retno Marsudi a déclaré aux médias à Jakarta le mardi 12 janvier 2016 si elle se rendra d'abord le royaume de l'Arabie Saoudite ou la République islamique d'Iran, cela dépend de quel pays qui a le même calendrier avec cette visite. Retno Marsudi a souligné que l'Indonésie était un pays qui était neutre au conflit en cours entre le gouvernement du royaume de l'Arabie Saoudite et la République islamique d'Iran.
Saya rencananya mudah-mudahan tidak berubah, sore ini saya akan berangkat karena semuanya kan terkait dengan masalah.
S'il n'y a pas de changement, je partirai cet après-midi ou mardi 12 janvier. Tout est lié au temps qui est donné à moi pour que je puisse rencontrer le roi arabe ou le président de l'Iran. Et encore une fois, je veux souligner que l'Indonésie est un pays qui est neutre. Nous sommes amis les deux pays. Il n'y a aucune tension, c'est parce que notre neutralité. Retno Marsudi a expliqué qu'en plus de présenter une lettre du président Joko Widodo, qui est le premier chef du pays, qui a envoyé directement une lettre aux dirigeants de l'Arabie Saoudite et l'Iran, elle discutera aussi des questions avec les ministres des Affaires étrangères des deux pays. Le gouvernement de l'Indonésie a engagé pour aider à réduire les tensions entre les gouvernements de l'Arabie Saoudite et de l'Iran après les exécutions effectuées par le gouvernement de l'Arabie Saoudite contre 47 personnes, y compris le leader religieux chiite Nimr al-Nimr, le 2 janvier 2016. Le gouvernement indonésien et Singapour ont le projet de renforcer la coopération dans divers domaines, entre autres dans le domaine économique, notamment dans le secteur de l'agro d'affaires et de la main d'œuvre. C'est ce qu'a affirmé la ministre indonésienne des Affaires étrangères, Retno Marsudi, tout en donnant l'explication aux médias après avoir mené la réunion bilatérale avec le ministre singapourien des Affaires étrangères, Vivian Balakrishnan, au bâtiment de Pancasila, le ministère des Affaires étrangères, mardi. Selon Mme Retno, l'Indonésie sera capable de répondre à la demande pour les produits de l'agro-industrie et des soignants du gouvernement de Singapour.
Jadi kita fokus kepada kerjasama-kerjasama ekonomi karena sebentar lagi dalam arti belum tahu waktu.
Donc, nous nous concentrons sur les coopérations économiques. Parce que bientôt, nous ne savons pas l'heure exacte, mais cette année, le premier ministre de Singapour se rendra en Indonésie, de sorte que nous nous concentrons sur les coopérations économiques, comme je l'ai dit précédemment. Plus nos deux demandes supplémentaires pour nos produits agro-industriels d'exportation, car il y a des besoins et nous avons la capacité afin que nous puissions correspondre. Ensuite, la deuxième est la question des travailleurs indonésiens qui ont dû de se déplacer vers les travailleurs qualifiés, car il y a un besoin de soignants et aussi pour les thérapeutes. Voilà ce que nous parlions. En outre, Retno Alpemarsudi a déclaré que les relations bilatérales entre l'Indonésie et Singapour sont les relations bilatérales les plus intensives en raison de l'emplacement géographique des deux pays étaient très proches. Plus tôt, lors d'une conférence de presse avec le ministre des Affaires étrangères de Singapour, Retno Alpemarsudi a dit que dans le domaine du commerce, Singapour était le deuxième partenaire pour l'Indonésie après la Chine, parce que le commerce entre les deux pays en 2014 a atteint 42 milliards de dollars américains. Tandis que dans le secteur touristique, elle a expliqué que le nombre de touristes singapouriens qui ont visité l'Indonésie en 2014 a atteint 1,5 million de personnes. Elle a également enregistré que dans le domaine des investissements, Singapour est le plus grand investisseur en Indonésie avec la réalisation des investissements d'un montant de 5,8 milliards de dollars américains en 2014. Pendant ce temps, dans la même occasion, le ministre singapourien des Affaires étrangères, Vivian Balakrishnan, a expliqué que l'Indonésie était le quatrième plus grand partenaire commercial à Singapour après la Chine, la Malaisie et les États-Unis. En outre, beaucoup d'entreprises de Singapour sont intéressées à investir plus en Indonésie, mais ils attendent encore la réglementation gouvernementale de l'Indonésie. Le directeur de la coopération économique de l'ASEAN du ministère indonésien des Affaires étrangères, Ina Krishnamurti, mardi à Jakarta, a souligné l'importance de la sensibilisation des Indonésiens à prendre avantage de l'ère de la communauté économique de l'ASEAN, CEA 2016. Selon elle, pour être en mesure de prendre avantage, les citoyens indonésiens doivent participer activement et concurrencer avec des pays d'autres régions. Elle a expliqué que la compétition devait être équilibrée avec la conscience sur l'importance des changements de la façon de penser des gens envers la CEA.
So I think awareness is key, and I see differences now.
Donc, je pense que la conscience est la clé et je vois maintenant les différences. Les gens sont plus conscients de l'AEC, particulièrement prendre avantage d'elle à participer activement. La deuxième est la conscience de la compétitivité. Troisièmement, les gens doivent comprendre que cela n'est pas un événement, c'est un processus qui nécessite le soutien dans le processus d'intégration, à la fois l'intégration régionale et mondiale. En outre, Ina Krishnamurti a déclaré que le bénéfice de l'ère de la communauté économique de l'ASEAN ne sera pas senti bientôt, mais progressivement jusqu'en 2025, où les pays de l'ASEAN vont entrer dans la seconde période de la CEA. Toutefois, elle a encouragé les citoyens indonésiens pour accroître la compétitivité des produits nationaux pour être en mesure de concurrencer avec les produits d'autres pays de l'ASEAN. Le commandant des opérations de l'armée de l'air d'Indonésie, le général de brigade aérienne Yuyu Sutisna à Padang, a déclaré mardi que l'Indonésie n'a pas été impliquée dans le conflit, mais devrait être prête avec toutes les possibilités qui se produiraient. Il a dit sur l'anticipation du développement en mer de Chine méridionale. Selon lui, l'une des anticipations est d'augmenter le statut de la base aérienne de Natuna à l'île Riau du type C au type B, dirigée par un colonel. C'est la première base aérienne de l'Indonésie au bord de la mer de Chine méridionale. Il a expliqué qu'avec la montée du type de la base aérienne Natuna, alors il y aura la construction progressive des installations et de l'infrastructure et la performance des troupes conformément aux besoins. Il a dit que l'augmentation du type de la base aérienne de l'armée a été suivie par 6 autres, à savoir la base aérienne de l'armée de l'air Padang, Palembang, Tarakan, Lombok, Morotai et Merauke. L'Indonésie et la Russie continuent à explorer la coopération dans divers domaines. La Russie a l'intention de coopérer dans le domaine de la fabrication de composants de Sukhoi avec PT Dirgantara Indonesia. Le ministre russe de l'Industrie et du Commerce, Denis Valentinovich Manturov, cité par le Parlement régional d'Indonésie, a déclaré lundi qu'il était prêt à parler avec PT Dirgantara Indonesia pour produire des composants en Indonésie. Cette question a été déclarée par Denis Valentinovich Manturov dans une réunion avec le chef du Parlement régional d'Indonésie, Irman Gusman, récemment, après avoir rencontré le président Joko Widodo. Il y a déjà la feuille de route pour établir la coopération bilatérale qui est produite par le comité conjoint Indonésie-Russe. Irman Gusman souhaite la feuille de route puisse accélérer la mise en œuvre du plan d'investissement, le commerce et la coopération bilatérale. Irman Gusman souhaite la feuille de route puisse accélérer la mise en œuvre le plan d'investissement, le commerce et la coopération bilatérale. Selon le projet, le ministre tchèque des Affaires étrangères, Lubomír Zaorálek, emmène certains hommes d'affaires dans sa visite de travail à la 4e semaine de février à Jakarta. Le projet de sa visite en Indonésie a été livré directement par le ministre tchèque des Affaires étrangères à l'ambassadeur indonésien en République tchèque, Aulia Amandrahman, dans le bureau du ministère tchèque des Affaires étrangères, en marge de la conférence de presse annuelle du ministre des Affaires étrangères au milieu diplomatique de la République tchèque. C'est ce qu'a déclaré le secrétaire du protocole du consulat et de l'information de l'ambassade d'Indonésie, Apra Fitriani Ridwan, à l'agence de presse Antara mercredi à Londres. Selon l'agenda, le ministre Zaorálek mènera une réunion avec la ministre indonésienne des Affaires étrangères, Retno LP Marsudi, et a signé l'accord sur l'exemption de visa pour les titulaires de passeports diplomatiques et de services, et l'accord de coopération de la science, l'éducation et la culture entre l'Indonésie et la Tchèque. En outre, cette visite de travail est un moment à réaliser la coopération des deux pays. Serviteurs, c'était le journal de la Voix de l'Indonésie à Jakarta.
Bonsoir à tous, merci d'écouter la Voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Voici le commentaire intitulé « Pour parler de paix avec l'Afghanistan et commencer ». L'Afghanistan, les États-Unis, le Pakistan et la Chine, lundi, ont tenu une réunion à Islamabad sur la paix en Afghanistan. Le vice-ministre des Affaires étrangères de l'Afghanistan, Hekmat Karzai, et le ministre des Affaires étrangères du Pakistan, Aizaz Chaudhry, ont rencontré Richard Olson, le vice-spécial des États-Unis en Afghanistan et au Pakistan, ainsi que le général Anthony Rourke, le représentant de la défense des États-Unis au Pakistan, et l'envoyé spécial chinois pour les affaires de l'Afghanistan, Deng Xijun. Les talibans ne sont pas invités à cette réunion. Les participants à la réunion, dans une déclaration conjointe, ont souligné l'importance d'organiser des négociations directes et immédiates entre le gouvernement afghan et les talibans pour mettre fin au conflit dans ce pays. Le conseiller en politique étrangère du Pakistan, Sartaj Aziz, a déclaré que l'objectif principal du processus de réconciliation est de créer les conditions pour amener les talibans à la table de négociation et de leur donner des incitations pour qu'ils évitent des moyens violents pour atteindre des objectifs politiques. Cette déclaration est pour répondre aux allégations afghanes Pour le Pakistan, il était déterminé à utiliser la violence contre les forces talibanes qui ne veulent pas négocier. Les négociations du lundi ont été faites quand les talibans intensifient les attaques anti-gouvernementales en Afghanistan et de saisir plus de territoire qu'auparavant depuis que ce groupe a été chassé au pouvoir il y a 14 ans. Mais les talibans ne peuvent saisir que les zones rurales qui sont difficiles à atteindre. Jusqu'à présent, le gouvernement afghan ne peut pas encore donner la certitude sur les incitations politiques et économiques qui peuvent être offertes aux talibans pour qu'ils arrêtent et participent au processus de paix. Les efforts de paix l'année dernière ne peuvent pas être réalisés après le fondateur des talibans, le mullah Muhammad Omar, a été tué il y a 2 ans. Sa mort a provoqué une scission entre eux et déterminé le nouveau leader du groupe. La présence des États-Unis et la Chine reflète l'urgence de la situation afin que les négociations puissent être commencées. La Chine a une histoire de bonnes relations avec le Pakistan, tandis que les États-Unis ont été impliqués dans la guerre contre les talibans. L'une des factions des talibans ont dit qu'ils ne négocieraient pas avec le gouvernement afghan avant de négocier avec les États-Unis directement. Les talibans veulent également son bureau de représentation au Qatar sous le drapeau de l'Émirat islamique, l'Afghanistan reconnu. Ils veulent également l'ONU supprime les talibans de la liste des terroristes et les combattants talibans qui sont emprisonnés en Afghanistan sont libérés. Le président de l'Afghanistan, Ashraf Ghani, a eu refusé la reconnaissance officielle pour les talibans. Donc, il semble que la paix en Afghanistan est encore très faible. C'était le commentaire de la Voix d'Indonésie diffusée depuis Jakarta.
Vous êtes toujours avec la Voix de l'Indonésie à Jakarta. Vous pouvez aussi nous écouter par Internet sur le site www.voi.co.id.
Bonsoir, chers amis. Merci d'être fidèles à notre antenne, la Voix d'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Voici l'histoire d'aujourd'hui. Le 13 janvier 1941, les alliés de la Seconde Guerre mondiale se sont réunis à Londres, étant initiée par Churchill, a été organisée dans le but d'unifier les politiques des pays alliés contre l'Allemagne et l'Italie. Cette réunion a été assistée par les délégués des Pays-Bas, la Belgique, la France, la Grèce, la Norvège, le Luxembourg, le Danemark et l'Angleterre. Le 13 janvier 1992, le Japon présente ses excuses pour forcer les femmes coréennes à l'esclavage sexuel pendant la Seconde Guerre mondiale. Les femmes coréennes ont été forcées d'accompagner l'armée comme corps de volontaires. Après la publication de l'article, le premier ministre du Japon, Kichi Miyazawa, a présenté ses excuses au président sud-coréen Roh Tae-woo le 13 janvier 1992, quand il a visité la Corée. Le 13 janvier 2010, le séisme a frappé El Salvador. Le séisme de magnitude 7,6 sur l'échelle de Richter a eu lieu à 17h33 UTC avec l'épicentre à 60 000 ou 100 km dans le sud-ouest de San Miguel, à une profondeur de 60 km. Au moins 944 personnes sont mortes et 5765 blessées. 108 261 maisons ont été détruites et plus de 150 000 bâtiments endommagés en El Salvador. Le séisme a été ressenti de Mexico jusqu'à Colombie. C'était l'histoire d'aujourd'hui de la Voix d'Indonésie diffusée depuis Jakarta.
Vous êtes toujours avec la Voix de l'Indonésie à Jakarta. Vous pouvez aussi nous écouter par Internet sur le site www.voi.co.id.
Mise au point sur les infos et événements quotidiens.
Chers auditeurs, nous vous présentons maintenant la mise au point intitulée « L'agence de restauration de tourbes sous le président ». Le gouvernement va restaurer des tourbières pour améliorer la gouvernance de la tourbe en Indonésie. Par conséquent, le gouvernement est en train de discuter de la mise en place de l'agence de la restauration de la tourbe sous le président. Il est souhaitable que cette institution spéciale puisse coordonner interministériel, faire la restauration physique de la tourbe et synchroniser de la réglementation et d'attirer le monde international. La ministre de l'Environnement et des Forêts, Siti Nurbaya, a dit « Certains ministères deviendront un partenaire de l'Agence de la restauration de la tourbe. » Il inclut le ministère de l'Environnement et des Forêts, le ministère de l'Agriculture et de l'Aménagement du Territoire, le ministère de l'Intérieur et le ministère du Développement Rural et de la Transmigration. En outre, l'Agence de la restauration de tourbes assurera également la liaison avec des organisations internationales ou certains pays. En ligne avec la mise en place de l'Agence de la restauration de la tourbe qui se concentre à améliorer des tourbières endommagées à cause de l'incendie des forêts et des terres l'année dernière, le gouvernement a révisé le règlement du gouvernement sur la gestion de la tourbe. Le nouveau règlement du gouvernement contiendra les règlements de la gestion, l'explication de fonctions de tourbières et comment la gestion de la terre brûlée. En principe, le projet de règlement du gouvernement entrait dans les dernières étapes de la procédure administrative au sein du ministère de la Justice et des Droits de l'Homme. Pendant ce temps, le responsable du Centre pour l'étude de la protection et de la gestion de l'environnement de l'Université de Palangkaraya, Darmai Nasir, a déclaré « Depuis plus de 18 ans, l'Indonésie a connu des problèmes de gestion des tourbières et l'incendie de forêt. » La mise en place de l'Agence de la restauration de tourbières peut accélérer les efforts de prévention et d'améliorer les tourbières endommagées. Le directeur exécutif de Wetland International en Indonésie, Inyoman Suryadipura, souhaite que la tâche de l'Agence de la restauration de tourbes ne soit pas limitée à la restauration physique des tourbières, mais synchroniser également certaines directives et de règlements. Par exemple, selon Inyoman, le ministère de l'Agriculture permet de réduire le souterrain de la tourbe de 60 à 80 cm. Pourtant, selon le règlement du gouvernement, le niveau de le souterrain de tourbe était 40 cm. La profondeur plus de 40 cm est classée en catégorie endommagée, sauf que les tourbières ont l'épaisseur moins d'un mètre. D'autre part, selon le secrétaire d'État Pratikno, la mise en place de l'Agence de la restauration de la tourbe et l'engagement du gouvernement qui ne veulent pas la répétition des incendies de forêt. Selon lui, l'Agence pour la restauration de la tourbe est une réponse du gouvernement que la gestion des tourbières nécessite le traitement spécial. Chers auditeurs, c'était la mise au point.
Et après, nous vous présentons le rappel des titres de l'actualité. Le président Joko Widodo a ordonné la ministre des Affaires étrangères Retno Marsudi de visiter le Moyen-Orient le mardi 12 janvier 2016 et a porté une lettre à donner au roi d'Arabie Saoudite et président de l'Iran. La ministre Retno Marsudi a déclaré aux médias à Jakarta le mardi 12 janvier 2016 si elle se rendra d'abord le royaume de l'Arabie Saoudite ou la République islamique d'Iran, cela dépend de quel pays qui a le même calendrier avec cette visite. Retno Alpemarsudi a souligné que l'Indonésie était en paix, qui était neutre au conflit en cours entre le gouvernement du Royaume de l'Arabie Saoudite et la République islamique d'Iran.
Saya rencananya mudah-mudahan tidak berubah. Sore ini saya akan berangkat. Karena semuanya kan terkait dengan masalah.
S'il n'y a pas de sanctions, je partirai cet après-midi ou mardi 12 janvier. Tout est lié au temps qui est donné à moi pour que je puisse rencontrer le roi arabe ou le président de l'Iran. Et encore une fois, je veux souligner que l'Indonésie est en paix qui est neutre. Nous sommes amis les deux pays. Il n'y a aucune tension, c'est parce que notre neutralité. Retno Alpemarsudi a expliqué qu'en plus de présenter une lettre du président Joko Widodo, qui est le premier chef du pays, qui a envoyé directement une lettre aux dirigeants de l'Arabie Saoudite et l'Iran, elle discutera aussi des questions avec les ministres des Affaires étrangères des deux pays. Le gouvernement de l'Indonésie a engagé pour aider à réduire les tensions entre les gouvernements de l'Arabie Saoudite et de l'Iran après les exécutions effectuées par le gouvernement de l'Arabie Saoudite contre 47 personnes, y compris le leader religieux chiite Nimr al-Nim, le 2 janvier 2016. Le gouvernement indonésien et Singapour ont le projet de renforcer la coopération dans divers domaines, entre autres dans le domaine économique, notamment dans le secteur de l'agro d'affaires et de la main-d'œuvre. C'est ce qu'a affirmé la ministre indonésienne des Affaires étrangères, Retno Alpemarsudi, tout en donnant l'explication aux médias après avoir mené la réunion bilatérale avec le ministre singapourien des Affaires étrangères, Vivian Balakrishnan, au bâtiment de Pancasila, le ministère des Affaires étrangères, mardi. Selon Mme Retno, l'Indonésie sera capable de répondre à la demande pour les produits de l'agro-industrie et des soignants du gouvernement de Singapour.
Ya, jadi kita fokus kepada kerjasama-kerjasama ekonomi karena sebentar lagi dalam arti belum tahu waktu.
Donc, nous nous concentrons sur les coopérations économiques parce que bientôt nous ne savons pas l'heure exacte, mais cette année, le premier ministre de Singapour se rendra en Indonésie, de sorte que nous nous concentrons sur les coopérations économiques, comme je l'ai dit précédemment. Plus nos deux demandes supplémentaires pour nos produits agro-industriels d'exportation, car il y a des besoins et nous avons la capacité afin que nous puissions correspondre. Ensuite, la deuxième est la question des travailleurs indonésiens qui ont dû de se déplacer vers les travailleurs qualifiés, car il y a un besoin de soignants et aussi pour les thérapeutes. Voilà ce que nous parlions. En outre, Retno Alpemarsudi a déclaré que les relations bilatérales entre l'Indonésie et Singapour sont les relations bilatérales les plus intensives en raison de l'emplacement géographique des deux pays étaient très proches. Plus tôt, lors d'une conférence de presse avec le ministre des Affaires étrangères de Singapour, Retno Alpemarsudi a dit que dans le domaine du commerce, Singapour était le deuxième partenaire pour l'Indonésie après la Chine. Parce que le commerce entre les deux pays en 2014 a atteint 42 milliards de dollars américains. Tandis que dans le secteur touristique, elle a expliqué que le nombre de touristes singapouriens qui ont visité l'Indonésie en 2014 a atteint 1,5 million de personnes. Elle a également enregistré que dans le domaine des investissements, Singapour est le plus grand investisseur en Indonésie avec la réalisation des investissements d'un montant de 5,8 milliards de dollars américains en 2014. Pendant ce temps, dans la même occasion, le ministre singapourien des Affaires étrangères, Vivian Balakrishnan, a expliqué que l'Indonésie était le quatrième plus grand partenaire commercial à Singapour après la Chine, la Malaisie et les États-Unis. En outre, beaucoup d'entreprises de Singapour sont intéressées à investir plus en Indonésie, mais ils attendent encore la réglementation gouvernementale de l'Indonésie. Le directeur de la coopération économique de l'ASEAN du ministère indonésien des Affaires étrangères, Ina Krishnamurti, mardi à Jakarta, a souligné l'importance de la sensibilisation des Indonésiens à prendre avantage de l'ère de la communauté économique de l'ASEAN, CEA 2016. Selon elle, Pour être en mesure de prendre avantage, les citoyens indonésiens doivent participer activement et concurrencer avec des pays d'autres régions. Elle expliquait que la compétition devait être équilibrée avec la conscience sur l'importance des changements de la façon de penser des gens envers la CEA.
So I think awareness is key, and I see differences now. People are more
Donc,
aware
je pense que la conscience est la clé et je vois maintenant les différences. Les gens sont plus conscients de la EC, particulièrement prendre avantage d'elle à participer activement. La deuxième est la conscience de la compétitivité. Troisièmement, les gens doivent comprendre que cela n'est pas un événement, c'est un processus qui nécessite le soutien dans le processus d'intégration, à la fois l'intégration régionale et mondiale. En outre, Ina Krishnamurti a déclaré que le bénéfice de l'ère de la communauté économique de l'ASEAN ne sera pas senti bientôt, mais progressivement jusqu'en 2025, où les pays de l'ASEAN vont entrer dans la seconde période de la CEA. Toutefois, elle a encouragé les citoyens indonésiens pour accroître la compétitivité des produits nationaux pour être en mesure de concurrencer avec les produits d'autres pays de l'ASEAN. Le commandant des opérations de l'armée de l'air d'Indonésie, le général de brigade aérienne Yuyu Sutisna à Padang, a déclaré mardi que l'Indonésie n'a pas été impliquée dans le conflit, mais devrait être prête avec toutes les possibilités qui se produiraient. Il a dit sur l'anticipation du développement en mer de Chine méridionale. Selon lui, l'une des anticipations est d'augmenter le statut de la base aérienne de Natuna à l'île Riau du type C au type B, dirigée par un colonel. C'est la première base aérienne de l'Indonésie au bord de la mer de Chine méridionale. Il a expliqué qu'avec la montée du type de la base aérienne Natuna, alors il y aura la construction progressive des installations et de l'infrastructure et la performance des troupes conformément aux besoins. Il a dit que l'augmentation du type de la base aérienne de l'armée a été suivie par 6 autres, à savoir la base aérienne de l'armée de l'air Padang, Palembang, Tarakan, Lombok, Morotai et Merauke. L'Indonésie et la Russie continuent à explorer la coopération dans divers domaines. La Russie a l'intention de coopérer dans le domaine de la fabrication de composants de Sukhoi avec PT Dirgantara Indonesia. Le ministre russe de l'Industrie et du Commerce, Denis Valentinovich Manturov, cité par le Parlement régional d'Indonésie, a déclaré lundi qu'il était prêt à parler avec PT Dirgantara Indonesia pour produire des composants en Indonésie. Cette question a été déclarée par Denis Valentinovich Manturov dans une réunion avec le chef du Parlement régional d'Indonésie, Irman Gusman, récemment, après avoir rencontré le président Joko Widodo. Il y a déjà la feuille de route pour établir la coopération bilatérale qui est produite par le comité conjoint Indonésie-Russe. Irman Gusman souhaite la feuille de route puisse accélérer la mise en œuvre du plan d'investissement, le commerce et la coopération bilatérale. Irman Gusman souhaite la feuille de route puisse accélérer la mise en œuvre le plan d'investissement, le commerce et la coopération bilatérale. Selon le projet, le ministre tchèque des Affaires étrangères, Lubomír Zaorálek, emmène certains hommes d'affaires dans sa visite de travail à la quatrième semaine de février à Jakarta. Le projet de sa visite en Indonésie a été livré directement par le ministre tchèque des Affaires étrangères à l'ambassadeur indonésien en République tchèque, Aulia Aman Rahman, dans le bureau du ministère tchèque des Affaires étrangères, en marge de la conférence de presse annuelle du ministre des Affaires étrangères au milieu diplomatique de la République tchèque. C'est ce qu'a déclaré le secrétaire du protocole du consulat et de l'information de l'ambassade d'Indonésie, Apra Fitriani Ridwan, à l'agence de presse Antara mercredi à Londres. Selon l'agenda, le ministre Joe Khalek mènera une réunion avec la ministre indonésienne des Affaires étrangères, Retno Marsudi, et a signé l'accord sur l'exemption de visa pour les titulaires de passeports diplomatiques et de services, et l'accord de coopération de la science, l'éducation et la culture entre l'Indonésie et la Tchèque. En outre, cette visite de travail est un moment à réaliser la coopération des deux pays. Serviteur, c'était le journal de la Voix de l'Indonésie à Jakarta.
Radio République Indonésie, service international, la Voix d'Indonésie.
Informing, connecting, dignifying.
Radio République Indonésie, service international, La Voix d'Indonésie, présente des nouvelles, des informations actuelles et des divertissements.
Vous êtes toujours avec nous, Radio République Indonésie, service international, La Voix d'Indonésie, sur les fréquences ondes courtes 15150, 9525 et 11785 kHz. Le programme de l'émission en français. Vous pouvez aussi écouter nos émissions via l'Internet sur www.voi.co.id.
Pour la rubrique suivante, écoutez la rubrique culturelle et apprendre l'indonésien.
Écoutez des informations et les arts et cultures indonésiens dans le programme quotidien Tout de beauté en Indonésie.
Chers auditeurs, on va écouter maintenant la rubrique culturelle. Aujourd'hui, nous vous présentons la place Tebing dans le nord de Lombok. Des places de Lombok sont célébrées par sa beauté. Bien que la place dans le nord de Lombok ne soit pas aussi belle que la place dans le sud ou l'est de Lombok, mais il y a une place agréable et intéressante à visiter dans le nord de Lombok, telle que la place Tebing. La place Tebing est située au Amoluk, le village Sambik Bangkol, sous communauté de Gangga, la région de nord de Lombok. Exactement derrière l'école secondaire de Gangga, le nord de Lombok. Si vous demandez la place Tebing aux pêcheurs que vous rencontrez dans la rue, peut-être ils sont moins familiers avec ce nom. Ils sont plus familiers avec la place Balihai. Apparemment, cela est parce que près d'ici, il y a l'entrepôt Balihai Bière. Mais d'autres l'appellent la plage Luk, car la place Tebing est située dans le hameau Luk. Espérons que le nom de la place Tebing ne vous rend pas confus, mais vous permet de demander la place. La place Tebing, qui est située dans le nord de Lombok, est une place de sable noir. La place Tebing est classée comme la côte très propre, soit la terre ou la mer. La propriété de la place est très maintenue. Ceci peut être mis en évidence par l'épanouissement des rocheurs à cette place. Cette place est nommée la place Tebing ou falaise parce qu'elle a une falaise d'environ 20 mètres. En fait, la falaise est formée de sédiments de nuages chauds contenant des fragments des corail de tsunami à cause de l'éruption de Mont Tambora en 1815. Donc ne soyez pas surpris si vous voyez la forme de falaise comme calcaire fragile. Bien que son nom soit la place Tebing, mais cette place n'est pas un endroit de faire de l'escalade. Sur la côte Tebing, à environ 5 mètres de la plage, vous trouverez un grand nombre de personnes qui pêchent pendant le bain. Le voyage vers la place Tebing au nord de Lombok est très facile. Si vous partez de la ville de Mataram, qui est environ 80 km de la place Tebing, vous prenez le temps seulement une demi-heure. Vous pouvez prendre un véhicule privé ou un transport commun, tel que les petits autobus et taxis. Alors que du centre-ville ou l'origine de Satay Tanjung, vous prenez seulement environ 15 jusqu'à 20 minutes à l'est. Après cela, vous devez trouver l'école secondaire de Ganga, parce que la place Tebing est derrière de l'école secondaire de Ganga. L'accès à l'entrée à la place Tebing est environ 200 mètres. Chers auditeurs, après avoir visité la place Tebing au nord de Lombok, vous pouvez également visiter quelques cascades qui existent autour de cette région. Après avoir été fatigué de jouer à la place Tebing et aux chutes d'eau, vous pouvez profiter le voyage culinaire comme Satay Tanjung, qui est fait à partir des poissons. Chers auditeurs, c'était le magazine culturel pour aujourd'hui. Et parler l'indonésien, vous pouvez écouter notre programme Allez apprendre l'indonésien.
Bonsoir à tous, retrouvons-nous une fois de plus dans votre émission Apprendre l'indonésien, un programme qui vous aide à découvrir des mots et des expressions indonésiennes et vous présente un dialogue permettant de les utiliser. Notre sujet aujourd'hui est wawancara pekerjaan ou en français, entrevue d'emploi. Comme d'habitude, je vais tout d'abord introduire le vocabulaire et les expressions liées au thème d'aujourd'hui. Je dirai chacun deux fois et vous devrez les répéter après moi. Wawancara pekerjaan. Wawancara pekerjaan. En français, entrevue d'emploi. Siapa nama Anda? Siapa nama Anda? En français, comment vous appelez-vous? Nama saya. Nama saya. En français, je m'appelle. Di mana? Di mana? En français, où? Alamat. Alamat. En français, adresse. Saya tinggal di, en français, j'habite à, jalan, jalan, en français, rue. Berapa usia Anda, en français, quel âge avez-vous? Menikah, menikah, en français, marié. Masih bujangan, en français, encore célibataire. Bisa, bisa, en français, pouvoir. Bahasa Inggris, en français, anglais. Bahasa Arab, en français, arabe. Mempunyai, mempunyai, en français, avoir. Pengalaman kerja, en français, expérience de travail. Sebagai, sebagai, en français, comme. Dosen, dosen, en français, professeur. Perguruan tinggi, en français, college. Terima kasih atas waktu Anda. Terima kasih atas waktu Anda, en français, nous vous remercions de votre temps. Terima kasih kembali. Terima kasih kembali. En français, je vous en prie. Bien, maintenant le vocabulaire et les expressions vont vous être donnés sous la forme d'une conversation entre Danou A et Boudi B. Je dirai chaque phrase deux fois lentement. Vous pouvez suivre après moi. A. Siapa nama Anda? Siapa nama Anda? En français, comment vous appelez-vous? B. Nama saya Budi. Nama saya Budi. En français, je m'appelle Budi. A. Di mana alamat Anda? Di mana alamat Anda? En français, où est votre adresse? B. Saya tinggal di Jalan Pangrango nomor 5. Saya tinggal di Jalan Pangrango nomor 5. En français, j'habite sur la rue Pangrango numéro 5. A. Berapa usia Anda? Berapa usia Anda? En français, quel âge avez-vous? B. Usia saya 25 tahun. Usia saya 25 tahun. En français, j'ai 25 ans. A. Apakah Anda sudah menikah? Apakah Anda sudah menikah? En français, êtes-vous marié? B. Belum, saya masih bujangan. B. Belum, saya masih bujangan. En français, pas encore, j'étais célibataire. A. Apakah Anda bisa berbahasa Inggris? A. Apakah Anda bisa berbahasa Inggris? En français, vous pouvez parler anglais? B. Saya bisa berbahasa Inggris dan Arab. B. Saya bisa berbahasa Inggris dan Arab. En français, je peux parler anglais et arabe. A. Apakah Anda mempunyai pengalaman kerja? A. Apakah Anda mempunyai pengalaman kerja? En français, avez-vous une expérience de travail? B. Saya pernah bekerja sebagai dosen di perguruan tinggi. B. Saya pernah bekerja sebagai dosen di perguruan tinggi. En français, j'avais travaillé comme professeur au collège. A. Baiklah, terima kasih atas waktu Anda. A. Baiklah, terima kasih atas waktu Anda. En français, très bien, nous vous remercions de votre temps. B. Terima kasih kembali. B. Terima kasih kembali. En français, je vous en prie. Sarita, ainsi se termine votre programme Parlons Indonésien. Nous espérons qu'il pourrait être utile pour ceux d'entre vous qui veulent en savoir plus sur la langue indonésienne. Nous vous retrouverons la semaine prochaine avec un sujet différent. Merci pour votre attention. Au revoir. Comme la fin de notre émission, nous vous présentons la rubrique de distraction.
Couleur du son, programme des musiques et des chansons indonésiennes.
Bonsoir, chers amis de La Voix d'Indonésie dans le monde entier. Merci d'écouter La Voix d'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Voici le programme musical. Vous pouvez écouter nos émissions sur les fréquences de 9525 kHz ou en streaming de www.voi.co.id. Vous pouvez également écouter nos émissions par l'application sur RRI Play. Pour cette édition, je présenterai des chansons pop chantées par André Hehanusa. Voici la première chanson intitulée Kuta Bali.
Sejak saat itu Kau genggam jemari tangan, meratap mentari yang tenggelam. Semua berlalu di balik hayalku, kenangan yang indah berdua denganmu.
Merci d'écouter la voix d'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Vous êtes en train d'écouter nos programmes musicaux chantés par André Hehanusa. Et c'était la première chanson intitulée Kuta Bali. Cette chanson raconte sur des souvenirs de l'amour sur l'île de Bali. La belle île est fascinante. Bali est un paradis pour les touristes étrangers et domestiques. Les souvenirs de l'amour et la beauté de Bali sont source d'inspiration pour André Hehanusa de créer une chanson appelée Kuta Bali. Il est le plus célèbre après avoir chanté une chanson intitulée Ange. Chers amis, écoutez maintenant la deuxième chanson de André Hehanusa intitulée L'Ange.
La fin de notre émission, ainsi se termine l'émission pour aujourd'hui. Rendez-vous demain, même heure et même fréquence. À bientôt.
Radio République Indonésie, service international, la voix d'Indonésie.
Informing, connecting, dignifying.
Radio République Indonésie, service international, la voix d'Indonésie, présente des nouvelles, des informations actuelles et des divertissements. Vous pouvez écouter notre émission tous les jours sur les fréquences ondes courtes de 15 150, 9 525 et 11 785 kHz. Le programme de l'émission en français ou écouter l'audio sur demande sur www.voi.co.id.
Envoyez vos critiques et vos suggestions à notre adresse email info@voi.co.id ou envoyez vos courriers à émission en français de la Voix d'Indonésie de la Radio République Indonésie, Jalan Medan Merdeka Barat 4S5, Jakarta. Ou PO Box 1157 Jakarta 1011 Indonésie. Vous pouvez rejoindre au Facebook Voice of Indonesia et Twitter Voice Indonesia. Merci de nous avoir écoutés. Au revoir.